Vous écoutez, on lit pour vous.
Se blesser en allant chercher un café, est-ce un accident de travail? Un texte de Stéphanie Marin paru le 28 février 2025 dans Le Devoir. Les travailleurs sont nombreux à aimer boire un café bien chaud pour accompagner leurs tâches quotidiennes au boulot. Mais si l'on se fie au dossier de réclamation, ils sont aussi nombreux à avoir chuté en se rendant à la brûlerie, à s'être ébouillantés ou à s'être étouffés en buvant leur dose quotidienne de caféine. Ces blessures causées par le café sont-elles des accidents de travail pouvant être indemnisés par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST? Parfois oui, parfois non. Cela dépend de bien des circonstances, comme l'explique une avocate de la Société québécoise d'information juridique, SOQIJE. En entrevue avec Le Devoir, Maître Amélie Pilon fait tomber dès le début une croyance erronée. Il n'est pas obligatoire que l'accident se soit produit entre les quatre murs de l'entreprise pour se qualifier comme accident de travail, bien que cela facilite la réclamation. Dans certaines circonstances, des accidents survenus à l'extérieur des lieux de travail peuvent mener à une compensation par le régime d'indemnisation de l'État québécois. Ce fut le cas notamment de ce travailleur qui a été indemnisé après avoir été frappé sur la route par une voiture en allant chercher du café pour toute son équipe. Ou de ce camionneur qui a glissé sur le sol mouillé d'une halte routière où il se rendait acheter un café et utiliser les toilettes. Vu la nature de son travail, le Tribunal administratif du travail, TAT, a retenu qu'il n'a pas le choix d'utiliser les services de halte routière, surtout lorsque son itinéraire l'amène à rouler plusieurs jours aux États-Unis. Pour déterminer si l'on a affaire à un accident de travail, il faut analyser toutes les circonstances et aucun critère n'est à lui seul définitif, explique Maître Pilon en entrevue. Les décisions du tribunal exposent toutefois des éléments qui sont considérés par les juges, explique l'avocate, qui a rédigé un billet intitulé « Le café et les accidents du travail », illustré de jugements récents. Le fruit de son travail est mis en ligne et accessible à tous sur le blog de la SOQIJE, dont le rôle est de simplifier le droit pour tous les Québécois. Ainsi, plusieurs critères peuvent être analysés par les juges du TAT, dont le lieu et le moment de l'accident, la nature des activités exercées ainsi que la présence d'un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident. Et la pause repos? La question de la pause repos revient souvent dans la jurisprudence. Le travailleur qui se blesse avec un café alors qu'il a cessé ses tâches pour 15 minutes peut-il être indemnisé? Encore là, ça va dépendre de l'ensemble des circonstances, réitère Maître Pilon. La réclamation d'un cariste sorti fumer et boire un café pendant sa pause a toutefois été rejetée. Éclatant de rire en écoutant une blague de son collègue, il s'est étouffé et est devenu étourdi, puis a fait une chute. Sa réclamation a été rejetée. D'après la jurisprudence, s'étouffer en mangeant ou en buvant ne peut être considéré comme un accident de travail. Le tribunal évalue aussi la situation de l'employé en pause. Est-il complètement libre de faire ce qu'il veut durant sa pause midi ou est-il sur appel, devant rester disponible pour l'employeur? Celui qui se trouve dans la deuxième situation a cet argument de plus à faire valoir, souligne l'avocate. Le cas d'un ambulancier est d'ailleurs éloquent à ce sujet. Il s'est rendu au service à l'auto d'un McDonald's pour commander du café. Toujours dans son ambulance, il s'est étiré pour reprendre sa carte bancaire, ce qui a déséquilibré le plateau qui contenait les cafés. Il a subi une brûlure au deuxième degré à la jambe. L'employeur a contesté sa réclamation à la CNESST. Il a soutenu que l'achat de café est une activité personnelle, laquelle n'est pas connexe ni utile à l'accomplissement de son travail. Il n'a pas eu gain de cause. Le tribunal a reconnu qu'il s'agissait bel et bien d'un accident de travail puisque l'ambulancier passait la plupart de son temps dans son véhicule d'urgence et qu'il était autorisé à acheter du café pendant qu'il attendait un appel, résume Maître Pilon. Dans le cas du manœuvre qui a été frappé par une voiture, le tribunal, en acceptant sa réclamation, a aussi tenu compte du lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident. C'est son contremaître qui lui avait demandé d'aller chercher des cafés pour tout le monde qui travaillait sur le chantier. Un autre cas recensé par Maître Pilon est celui d'une travailleuse qui est tombée en allant se chercher un café dans la galerie marchande de l'immeuble où se trouvait son bureau. Le tribunal n'a pas reconnu que cette chute était un accident de travail, notamment parce que le déplacement n'avait pas pour but de retourner sur les lieux du travail. Par ailleurs, une cafetière y était accessible, mais la travailleuse préférait le café de la brûlerie. Son déplacement était donc motivé par sa préférence personnelle et non par son utilité pour l'employeur, a jugé le TAT. C'était « Se blesser en allant chercher un café, est-ce un accident de travail ?» un texte de Stéphanie Marin paru le 28 février 2025 dans Le Devoir.
Sécurité à domicile, les questions à poser avant de s'engager. Un texte de l'Office de la protection du consommateur, paru le 19 février 2025 dans Virage. Afin d'assurer votre sécurité à domicile, vous pensez à équiper votre demeure d'un système d'alarme ou à vous doter d'un système d'alerte médicale? Par exemple, un collier ou une montre munie d'un bouton permettant de demander de l'aide? La première chose à faire est de s'informer. Vivant seule depuis peu, Colette envisage de se procurer un bouton d'alarme. Elle téléphone donc à une compagnie qui offre ce service dans sa région pour obtenir de l'information. Peu de temps après avoir parlé à un représentant convaincant, elle a non seulement un collier d'alerte médicale, mais également un système d'alarme pour sa maison. Le hic, c'est que le fonctionnement du système d'alarme lui semble très complexe, alors il n'est jamais en fonction, même si elle le paie chaque mois. Quant au collier, elle le trouve encombrant et ne le porte pas. Les questions à se poser. L'exemple de Colette fait ressortir l'importance de connaître ses besoins avant de s'engager. Il est inutile d'acheter des services qui ne serviront pas. Que souhaitez-vous avoir? Un système d'alarme? Un système d'alerte médicale? Quelle utilisation comptez-vous en faire? Est-ce qu'un bracelet serait plus pratique qu'un collier dans votre cas? Et quel est votre budget? Et celle à poser aux représentants. Informez-vous sur les caractéristiques de l'abonnement et sur les frais applicables. Est-ce qu'il y a des frais initiaux, par exemple pour l'installation et l'activation? Qu'est-ce qui est inclus? Doit-on débourser pour louer ou acheter des équipements? Quelles sont les modalités de paiement? Est-ce que des rabais sont offerts? Retenez que tous les frais que vous devez payer pour obtenir le service, à part les taxes, doivent être compris dans le prix annoncé. Entente à durée déterminée ou indéterminée. Prenez le temps d'évaluer le type de contrat qui vous convient le mieux. Un contrat à durée déterminée vous lie par une entente pendant une période fixe, par exemple 2 ans. Durant celle-ci, le prix des services ne pourra pas être augmenté. Si vous annulez avant la fin de la période indiquée dans le contrat, vous pourriez devoir payer des frais d'annulation. Avec un contrat à durée indéterminée, vous recevrez une facture chaque mois, mais n'êtes pas lié par un contrat comportant une durée fixe. Le prix des services pourrait être augmenté et il n'y aura généralement pas de frais à payer si vous annulez l'entente. Le fournisseur doit-il remettre un contrat écrit? Oui, il doit vous remettre un contrat écrit qui contient, entre autres, les éléments suivants dès la première page. La description détaillée de chacun des services, le tarif mensuel de chacun des services et des frais connexes, le montant total à payer chaque mois, la durée du contrat et la date à laquelle il se termine, les modalités d'annulation du contrat. En savoir plus. Pour obtenir plus d'informations sur ce sujet, notamment sur l'annulation d'un contrat, consultez le guide « Aînés et consommation, des droits à faire valoir » offert par l'Office de la protection du consommateur à l'adresse opc.gouv.qc.ca/aînés au pluriel. C'était « Sécurité à domicile, les questions à poser avant de s'engager », un texte de l'Office de la protection du consommateur paru le 19 février 2025 dans Virage.
Les tests anti-robots sont menacés, un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 mars 2025 dans La Presse. Êtes-vous un robot? Plusieurs sites Internet incluent des tests pour s'assurer que leurs utilisateurs sont des personnes en chair et en os. Mais l'intelligence artificielle, IA, arrive de plus en plus à reproduire les bonnes réponses à ces tests. Comment faire pour reconnaître un interlocuteur créé de toutes pièces? L'identification de l'IA fait partie des domaines de recherche en ébullition, indique Sarita Schoenbeck, une informaticienne de l'Université du Michigan, qui vient de lancer un projet pour trouver une manière d'adapter les tests CAPTCHA aux capacités toujours plus grandes de l'intelligence artificielle. Les tests CAPTCHA visent à déterminer si l'utilisateur d'un site Internet est un robot, histoire d'éviter les fraudes, notamment. Pas encore au point. Madame Schoenbeck, qui présidait un atelier sur les médias sociaux à la dernière réunion annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, AAAS, à Boston, est elle-même spécialiste des marqueurs d'identité. En ce moment, je sais qu'il y a certaines tâches que l'IA peine à accomplir, signale Madame Schoenbeck. Par exemple, si je demande à ChatGPT de montrer une image de ma main avec le pouce replié dans la paume, donc avec quatre doigts, il ne peut pas le faire. En tout cas, il ne pouvait pas la dernière fois que j'ai vérifié, mais ça change vite. Les premiers tests CAPTCHA sont apparus un peu avant le tournant du millénaire. Les géants de l'Internet ont rapidement trouvé une utilisation à ces tests. Par exemple, les tests où l'on devait reproduire des lettres sur des fonds étranges ont permis à Google de numériser des livres. Depuis quelque temps, les tests où l'on doit identifier des autobus, des vélos ou des motos servent à entraîner les logiciels de conduite autonome. En quelque sorte, les tests CAPTCHA ont servi à améliorer l'IA. Les tests de lettres sur fond étrange ont été abandonnés en partie parce qu'ils n'étaient plus efficaces, mais aussi parce qu'il n'y avait plus de livres ou de carnets de notes manuscrites à numériser, selon Andreas Plessner, de l'École polytechnique fédérale de Zurich, ETHZ, qui vient de publier une étude sur les tests de type CAPTCHA. Question de jugement. Un autre conférencier de l'AAAS, Aus Lin, du Massachusetts Institute of Technology, MIT, confirme que l'identification de l'IA s'avère une quête cruciale pour de nombreux secteurs. « Je travaille sur les élections », note M. Lin. « L'IA pourrait avoir un impact immense dans ce domaine, par exemple, en influençant les sondages. » Le projet de recherche de M. Lin essaie de modifier les choix électoraux avec des robots conversationnels mus par l'IA. Les participants savaient qu'ils parlaient à une IA, dit-il. C'était des conversations de 7 à 10 minutes. On arrivait à faire changer d'idée à 1 à 2 % des participants. C'est énorme en recherche électorale. D'autant qu'on n'a jamais prouvé que les publicités électorales faisaient changer les résultats. Détail intéressant, les participants à l'étude de M. Lin n'avaient pas souvent de malaise à dialoguer avec une IA. On a eu environ 200 refus sur 2000 participants, indique M. Lin. Et ces refus n'étaient probablement pas tous liés à une aversion pour l'IA. Plusieurs études montrent que les gens préfèrent parler à l'IA plutôt qu'avec une personne parce qu'ils ont peur que cette personne les juge. Cette préférence pour l'IA liée à la peur du jugement est confirmée par Marie-Pierre Gagnon, une chercheuse de l'Université Laval, qui vient de publier une méta-analyse d'études sur l'utilisation d'agents conversationnels pour des cours prénatales. On entend souvent ça, l'idée que l'IA ne juge pas, observe Madame Gagnon. Mais c'est un couteau à double tranchant en santé. Il ne faut pas que l'IA donne son aval à des comportements risqués. Selon Madame Gagnon, les agents conversationnels seront particulièrement utiles pour aider des populations ayant moins accès au système de santé et pour qui, souvent, la peur du jugement est importante. À condition qu'ils soient bien encadrés pour éviter les mauvais conseils, évidemment. Madame Gagnon élabore actuellement un projet de cours prénatal pour femmes immigrantes à Québec et cite des projets d'aide aux adolescents aux prises avec des problèmes de drogue. L'absence de crainte face à l'IA est aussi manifeste en raison du succès de l'agent conversationnel IA de l'entreprise québécoise Amicale, qui discute avec des personnes âgées atteintes de démence, signale Madame Gagnon. Selon le fondateur d'Amical, Tony Aubé, les enfants de ses clients n'ont aucun malaise à l'idée que leurs parents parlent avec une IA. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun problème à dialoguer avec l'IA, par exemple avec un personnage de leur série ou de leur livre favori, observe M. Aubé. Téléphone et certification. À l'ETHZ, Mathias Plessner consacre son doctorat à la possibilité d'un CAPTCHA résistant à l'IA. À l'automne 2024, il a publié une première étude à ce sujet sur le site de pré-publication Arxiv. Monsieur Plessner se montre pessimiste. Il cite l'un des tests de type CAPTCHA les plus performants par rapport à l'IA, le corpus d'abstraction et de raisonnement, ARC, qui, depuis 5 ans, continue d'être performant. Je ne vois aucune raison pour que l'IA n'y parvienne pas d'ici quelques années. En plus, ce sont des tests très exigeants pour les humains. Les créateurs d'ARC disent que 80% des humains les réussissent, mais je doute que ce soit le cas de mes parents. Certains tests font maintenant une analyse des comportements de navigation Internet et de manipulation de souris des utilisateurs avec l'idée que les humains ne font pas comme l'IA. Mais selon M. Plessner, il sera aussi possible d'entraîner l'IA pour imiter les comportements humains devant leur ordinateur. Et les doigts? C'est vrai qu'il est difficile pour l'IA de bien réussir ses tests. Mais ce n'est qu'une question de temps pour qu'on réussisse à bien les entraîner pour les tests de doigts, note M. Plessner. Les deux seules avenues sûres pour détecter l'IA sont l'utilisation de certifications et l'accomplissement de tâches physiques avec son téléphone, selon M. Plessner. On pourrait demander à l'usager de faire un geste précis avec son téléphone, explique le chercheur suisse. L'IA ne peut pas reproduire ça. Si l'IA ne rebute pas les humains, pourquoi les médias sociaux veulent-ils s'assurer que leurs clients sont des humains en chair et en os? Si l'IA entre dans les médias sociaux, le nombre de comptes pourrait exploser, explique M. Plessner. Les clients pourraient avoir à gérer des milliers de demandes de connexion par jour. Peut-être que ça rendrait les gens plus méfiants envers l'IA. En savoir plus, source TechRadar. 819 millions, nombre d'heures que des humains ont consacrées au test ReCAPTCHA de Google. C'était « Les tests anti-robots sont menacés », un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 mars 2025 dans la presse.
Claudia Scheinbaum, femme de tête, femme de cœur. Un texte de Michel Lefortin, paru le 22 mars 2025 dans L'Eau vive. Mairesse, députée, ministre, parfois première ministre ou présidente. Il y a de plus en plus de femmes en politique. Les suffragettes du début du 20e siècle n'ont pas lutté en vain. Certes, tout autant que leurs homologues masculins, elles ne forment pas un bloc homogène. Certaines sont à droite, d'autres à gauche. Certaines nous inquiètent. D'autres, comme Claudia Scheinbaum, nous inspirent. Première femme élue à la présidence du Mexique, Claudia Scheinbaum est née en 1962 à Mexico. Fille de scientifique, petite-fille de juifs ayant fui les pogroms et le nazisme en Lituanie et en Bulgarie, elle est la première personne juive élue à ce poste. Ses origines étrangères lui ont valu des critiques. L'ancien président, Vicente Fox, 2000 à 2006, l'ayant qualifiée d'étrangère juive. Comme ses parents, Claudia Scheinbaum est une scientifique. En 1995, elle devient la première Mexicaine à obtenir un doctorat en ingénierie énergétique. Climatologue, spécialiste de l'efficacité énergétique, elle est une des auteurs du 5e rapport d'évaluation du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, paru en 2014. De 2015 à 2017, on la retrouve au Comité des politiques de développement de l'ONU. De la science à la politique. Durant ses études à l'Université autonome du Mexique, Claudia Scheinbaum participe à des mouvements de solidarité avec les luttes ouvrières et paysannes. Avec des amis, elle se rend dans des régions particulièrement pauvres pour installer des systèmes de cuisson plus performants. Elle participe au mouvement étudiant de 1987 pour le maintien de l'enseignement universitaire gratuit. En 2000, le maire de Mexico, López Obrador, qui deviendra président en 2018, la nomme secrétaire à l'environnement, poste qu'elle occupera pendant 6 ans. En 2014, elle rejoint le parti de gauche récemment fondé par Obrador, le Mouvement de Régénération Nationale, Morena. Et en 2018, elle devient la première femme élue maire de la ville de Mexico. Les questions écologiques et une forte politique sociale caractérisent son mandat. Elle défend des politiques ambitieuses en termes d'énergie renouvelable et de développement durable. Elle cherche à rendre la mégapole plus verte tout en réduisant son empreinte carbone. Elle œuvre à la modernisation des transports publics, améliore le traitement des déchets, distribue des aides sociales dans les quartiers les plus pauvres. Nommée candidate à la course à la présidence en septembre 2023, elle remporte l'élection en juin 2024 avec près de 60% des votes et entre en fonction le 1er octobre. Fait intéressant, sa rivale de centre droit était aussi une femme, Xochitl Galvez. Sa politique s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur, López Obrador. Réduction du taux de pauvreté, augmentation du salaire minimum, amélioration du système judiciaire et des services de santé publique. À la différence d'Obrador, Claudia Sheinbaum remet les enjeux féministes à l'avant. Lutte contre les violences faites aux femmes, légalisation de l'avortement, promotion d'une plus grande autonomie des femmes. L'opposé de Trump. Justice sociale, immigration, développement durable, droits des femmes. On aura compris que les valeurs et le courant politique de Claudia Sheinbaum sont aux antipodes des valeurs et de la politique incarnée par Donald Trump. Face à un homme provocateur et souvent très agité, elle se distingue par son calme et son sang-froid. Elle fait preuve de position ferme et démontre sa capacité de compromis. Elle n'est pas non plus dénuée d'humour. Quand le président américain a décidé de renommer le golfe du Mexique « Golfe de l'Amérique », elle a suggéré de renommer les États-Unis « l'Amérique mexicaine », selon une carte du monde datant du 17e siècle. Pour retarder l'entrée en vigueur des tarifs imposés sur les produits mexicains, elle a accepté de renforcer la frontière nord du Mexique pour mieux contrôler le trafic de drogue, en particulier le fentanyl. Par contre, lorsque Trump a accusé le gouvernement mexicain d'avoir des liens avec le crime organisé, elle a riposté vigoureusement. Elle a également annoncé l'élargissement de la plainte que le Mexique a déposée il y a plusieurs années contre des trafiquants d'armes américains les accusant d'alimenter la narco-violence sur son territoire. Le Canada a tout intérêt à renforcer ses liens avec le Mexique. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de Claudia Sheinbaum. C'était Claudia Sheinbaum, femme de tête, femme de cœur. Un texte de Michel Fortin, paru le 22 mars 2025 dans L'Eau vive.